Morning Edition from NPR News.
Das ist die Sandinterhausen.
France Inter, le 18-20.
Il y a une guerre dans la guerre en Ukraine, souterraine et opaque, dont on parle peu. La cyberguerre peut aussi faire des victimes, désorganiser les opérations militaires, faire de la propagande. Depuis le début des opérations, l'Ukraine est la cible des hackers, mais elle riposte aussi. On y vient dans un instant. Le bruit du monde, ce sont les récits qu'envoie chaque jour à Caroline Gillet ceux qui sont sous les bombardements à Kiev en attendant la grande offensive. Le bruit du monde est assourdissant, mais pas qu'en Ukraine. La suite sous les radars. Fabien Fourel nous emmènera au Mexique où une autre guerre se joue, celle des gangs. Nous irons aussi en Libye et au Libéria qui tente de sauver un animal mal aimé, à tort, le pangolin. 18h50, la dernière représentation du ballet de Kiev, c'est ce soir, bien loin de la guerre, en Gironde. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et le bombardement hier à Kiev du mémorial de la Shoah, Babi Yar. Le président Zelensky accuse les Russes de vouloir effacer l'histoire. Le monde est vaste et l'histoire s'écrit en ce moment.
Christelle Robière. Un jour dans le monde.
Cette guerre en Ukraine est donc celle d'un nouveau siècle avec de nouvelles armes. On l'appelle la guerre hybride car elle utilise aussi l'outil informatique. Il n'y a pas que les opérations militaires, mais elle peut aussi faire des victimes, désorganiser, déstabiliser les États. C'est la cyberguerre. Bonsoir Olivier Kempf.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du cabinet stratégique La Vigie et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Quand et comment a commencé ce conflit dans le conflit ?
Je crois qu'il a commencé avant le conflit. Vous faites bien de parler de conflit plutôt que de guerre, parce que celle-là ne fait pour l'instant pas encore de victimes, pas encore de morts plus exactement. Mm-hmm. Une conflictualité qui a commencé, mais qui a commencé il y a 20 ans finalement, si on replonge bien dans l'histoire. Et en tout état de cause, qui s'est accélérée au cours des 8 dernières années avec l'Ukraine, qui a été cible, notamment depuis 3 ou 4 ans, de grosses opérations. Mm-hmm. Curieusement, avec le conflit, je dirais, ouvert, alors lui qui est réellement une guerre, puisqu'il y a des morts, il y a des bombardements, etc., on voit beaucoup moins de choses, et c'est une grande question d'ailleurs.
C'est-à-dire, quand vous nous dites on voit beaucoup moins de choses, c'est-à-dire...
Eh bien, on s'attendait, vous mentionnez la notion de guerre hybride, qui est ce que les spécialistes décrivent depuis 2-3 ans. Justement, l'élargissement à d'autres milieux d'opérations que simplement terrestre, aérien et maritime. Et donc, il y a le spatial, il y a le cognitif, il y a la guerre des ondes. Et puis, vous avez le cyberespace. Et donc, on s'attendait à ce qu'il y ait des opérations cyber qui viennent en appui des opérations militaires, qui soient une branche des opérations militaires. Et d'ailleurs, les Russes l'avaient pratiqué en 2008 en Géorgie, on l'a vu aussi en Syrie. Et donc, tous les experts, nous attendions à la même chose cette fois-ci. Et curieusement, depuis 6 jours, il y a eu des petites agressions la semaine dernière avant le début des opérations, notamment contre les institutions financières. Mais on ne voit pas, en tout état de cause, ce qui est le plus visible, c'est-à-dire des opérations de sabotage informatique. Mmh. Alors ici, il faut peut-être préciser. Désolé d'être un peu long, mais
les
cyberagressions, vous en avez de 3 types. Vous avez le sabotage, ce à quoi tout le monde pense, et puis vous avez de l'espionnage et de la subversion. Alors de la subversion, on est dans la guerre, dans la propagande de guerre des deux côtés. Je ne vais pas y revenir, tout le monde le voit. Bon, l'espionnage, il y en a très probablement des deux côtés. D'ailleurs, parce que les Russes savent parler ukrainien, les Ukrainiens savent parler russe, et donc ils sont très à même d'avoir implanté depuis des années un certain nombre de choses. Et probablement, il y a énormément d'espionnage. Mais on ne voit pas sabotage. Qu'est-ce à dire ? Est-ce que on ne voit pas de sabotage ? Il y a probablement de l'espionnage, mais on ne le voit pas parce que c'est quelque chose de discret. Est-ce à dire que c'est tout ? Peut-être. Il y a deux options, il y a deux hypothèses. La première, c'est que les Russes ne sont finalement pas sur la couche logicielle du cyberespace, mais s'attaquent à ce qu'on appelle la couche physique. Vous avez certainement vu le bombardement hier d'une tour télé à Kiev. On sent observer de la part des Russes la saisie des infrastructures, je dirais, qui permettent au cyberespace de fonctionner. Ça peut être de l'électricité, ça peut être des relais de télécommunications.
Ils peuvent couper, ils peuvent couper Internet, par exemple, ils peuvent, oui.
C'est ce que les experts regardent avec attention pour savoir s'il y a une baisse, je dirais, de la connectivité et si finalement Internet continue à fonctionner comme il fonctionnait avant et s'il n'y a pas, cette opération-là qui se déploie par les Russes de façon non visible, mais qu'ils gardent pour le futur. Mmh. Et c'est pour ça, c'est la deuxième hypothèse, c'est les Russes gardent des jokers. Ils gardent des cartes dans leurs mains, ils n'auraient pas encore, mettons plein de conditionnels, madame, on est très très prudent et celui qui affirme péremptoirement n'est pas sérieux, on n'a pas
les preuves, par définition, est très secret, mais c'est vrai qu'on est très surpris, par exemple, que Internet n'ait pas été coupé par les Russes en Ukraine depuis le début.
Alors, pour une raison pour l'instant encore assez simple, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore saisi le gros du pays, ils sont encore aux marges, alors ils progressent. J'imagine que les principaux centres d'interconnexion se trouvent quand même à Kiev. Et donc, on peut aussi imaginer que les Ukrainiens se sont préparés et donc ont préparé des solutions de repli. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'une autre hypothèse, et je reviens là-dessus, c'est les Russes gardent finalement cette arme pour quand il va falloir monter encore le ton parce que ils sont dans une progression, dans une augmentation du rythme de leurs opérations, enfin plus exactement de l'intensité de la force de leurs opérations, et peut-être que l'on va observer d'ici quelques jours une grosse agression cyber. Peut-être que dans une semaine, vous direz « Ah bah oui, effectivement, il nous l'avait dit ». Mais ça n'est qu'une hypothèse, plein de conditionnels, madame, de grâce.
Restons prudents. Oui, bien sûr. Quel impact ont ces cyberattaques sur les opérations militaires? Par exemple, au début de l'offensive, il y a eu une opération ciblée contre les militaires ukrainiens. Leur identité a été usurpée par des hackers russes pour répandre de fausses nouvelles.
Oui, alors ça, ce sont des dispositifs, je dirais, un peu classiques, qui reviennent finalement à ce que j'appelais la subversion tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous essayez d'essayer de taper, d'affecter le moral de l'autre, et y compris en agressant entre guillemets sa famille par ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, eh bien, vous allez abaisser sa faculté de combattre. D'ailleurs, il est probable aussi que quand les Ukrainiens ouvre un site de tous les prisonniers et morts russes et essaye de contacter les mères russes, l'association des mères russes qui opère depuis des décennies. Ça fait aussi partie de cette campagne de subversion qui va s'appuyer sur des sources un peu fermées, un peu volées ou finalement très ouvertes parce que ils ont les noms. Voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle des opérations de subversion.
Ça c'est de la subversion. Mais est-ce qu'on peut concrètement s'introduire, par exemple, dans le système de commandement des armées et leur donner de faux ordres?
Sur le terrain. Théoriquement, oui. C'est assez compliqué quand même parce qu'aujourd'hui, les systèmes sont normalement assez robustes et assez protégés. Et généralement, vous avez la barrière de la langue. Dans le cas présent, on peut imaginer que vous avez aussi bien des Russes que des Ukrainiens qui parlent la langue de l'autre et qui sont capables justement de faire ces intrusions, le phénomène d'intrusion. C'est possible. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas documenté. Moi, je suis comme vous, je travaille sur des sources ouvertes, sur ce qui apparaît, et on ne sait pas forcément tout ce qui se passe, parce que justement, ils ne le rendent pas public si ça marche.
Ça, c'est sûr. Et est-ce que, par exemple, on peut détourner des tirs de drones?
Alors, ce sont des choses qui ont été vues il y a quelques années en Irak. À l'époque, il y avait eu des doutes sur la possibilité qu'on puisse capter le signal GPS et donc le détourner, etc., etc. Cela a été reproduit, je vais dire, en laboratoire de façon expérimentale, mais ça n'a pas été observé de façon générale sur des théâtres d'opération d'une part, et puis d'autre part, les fabricants de drones ont un peu ils ont durci aussi leur liaison, ce qui fait que c'est quand même plus difficile.
Nous sommes en train de créer une armée informatique, a dit samedi le vice-premier ministre ukrainien, invitant les talents digitaux à les rejoindre. C'est une autre forme de résistance? Une cyber-résistance? Alors, oui, parce que... Ah, on vous a perdu, monsieur Kempf. Est-ce que Olivier Kempf est avec nous? Oui, voilà, très bien.
Je vous entends, excusez-moi.
Allez-y.
C'est une dimension qu'on observe depuis finalement assez longtemps, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la conflictualité, c'est un État contre un État, c'est très organisé. Et ce que l'on voit depuis 10 ans ou 15 ans, c'est pas tellement la notion de pirate, c'est la notion de corsaire. Souvenez-vous des corsaires du roi qui faisaient la course, c'est-à-dire qu'ils avaient des lettres de course, donc c'était des entrepreneurs privés qui pouvaient agresser les navires de l'ennemi et puis ils tiraient butin pour eux-mêmes, mais finalement, ils étaient légitimés par le roi ou légalisés par le roi. On a finalement ces phénomènes-là que l'on observe de part et d'autre hein, depuis longtemps, du côté occidental aussi. Alors, les occidentaux, ils vont parler de sous-traitance, de consultance, etc. Les Russes, ils vont utiliser les hackers de Saint-Pétersbourg, etc. Ce sont des phénomènes que l'on observe depuis longtemps et qui sont en train, là, effectivement, de se... qui sont probablement, là encore, mettons des guillemets, mais qui sont probablement en train de je dirais, se systématiser, parce que il est probable aussi que les Ukrainiens se préparent à une guerre longue et peut-être à une guerre de résistance, de guérilla, y compris face à un pays occupé, peut-être.
Olivier Kempf, vous êtes aussi un spécialiste de l'OTAN. Or, une attaque informatique contre un pays membre de l'organisation peut aussi déclencher le fameux article 5, c'est-à-dire la clause de défense collective de l'Alliance. Ça peut vraiment être considéré comme une attaque militaire?
C'est en tout cas ce qu'affirme l'Alliance. Les chefs d'État et de gouvernement l'ont approuvé. Vous avez des doctrines officielles. C'est-à-dire que non seulement le cyberespace est considéré comme un milieu opérationnel, mais effectivement une attaque majeure, mais il faudrait vraiment que ça soit une attaque très, très, très importante, peut déclencher l'article 5 avec deux grande question, quelle est la capacité de réaction et qui riposte, parce que l'Alliance, l'OTAN en l'occurrence, n'a pas de moyens offensifs en propre et ferait appel aux moyens offensifs d'un des alliés qui en détient. Il n'y en a pas 100 000.
Réponse militaire à une cyberattaque, c'est quand même assez étonnant, hein.
Et d'autre part, l'autre sujet, c'est on peut répondre par du cyber ou on peut répondre par d'autres moyens. Et donc là, il y a une certaine ambiguïté qui réside. Est-ce que je réponds à du cyber par du cyber ou est-ce que je réponds à du cyber par ce qu'on appelle du cinétique, c'est-à-dire de la violence physique. Gardons cette ambiguïté pour l'instant, mais cela fait aussi partie de la stratégie de dissuasion, d'intimidation plus exactement, d'intimidation, de dire attention, mon cher Vladimir, n'allez pas trop loin, je dirais. Si vous faites du cyber, faites attention à ce que ça ne nous éclabousse pas.
Et que pensez-vous, Olivier Kempf, des menaces proférées par Vladimir Poutine il y a quelques jours quand il parlait des forces de dissuasion? On a tous retenu le nucléaire, mais vous croyez qu'il pensait aussi à une cyberattaque de grande envergure, justement?
Eh bien, pardonnez-moi si je me trompe et si ma mémoire me trahit, il a parlé de moyens exceptionnels et jamais vus. Donc
oui.
Tout le monde
oui,
a interprété. Je crois me souvenir, vous vérifierez.
Oui, c'est vrai.
Mais donc tout le monde a interprété ça sur par du nucléaire. Peut-être faut-il interpréter ça, bien évidemment, par du nucléaire. Le rappel au règlement de dire nous sommes dans un conflit de haute intensité. Il y a un seuil supérieur dans l'escalade de la haute intensité qui s'appelle le nucléaire. Attention, et vous, les puissances nucléaires d'en face, parce qu'il s'adressait principalement aux puissances nucléaires d'en face, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, attention à ne pas aller trop loin. Grand 1, premier message. Mais peut-être faisait-il allusion à un certain nombre, d'abord d'armes physiques.
Oui.
On parle beaucoup des missiles hypersoniques, etc. Les Russes seraient, toujours du conditionnel, en avance sur les moyens occidentaux. Donc peut-être fait-il allusion à ceci. Et peut-être fait-il aussi allusion à une arme cyber de grande ampleur que nous ne connaîtrions pas, qu'ils auraient préparée et qu'ils gardent, là encore, de leur jeu. C'est ce que je vous disais en début de propos.
Il y a aussi potentiellement des représailles contre les pays qui soutiennent l'Ukraine et qui sanctionnent lourdement la Russie. En France, le ministère de l'Intérieur demande aux préfets de se protéger en cas de cyberattaque, et même de rester à moins d'une demi-journée de leur département. Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi ?
Alors d'abord, il est heureux et normal que les niveaux de vigilance se monte, justement parce que d'une certaine façon le cyberespace n'a pas de frontières, potentiellement n'a pas de frontières. Donc il est assez normal que par mesure de prudence on fasse un peu plus attention. Hein, voilà,
concrètement, ce serait quoi? Les attaques auxquelles la France pourrait avoir, les cyberattaques auxquelles la France pourrait être confrontée dans les prochaines heures ou les prochains jours?
Alors, est-ce que la France sera directement attaquée? Là, on rentre dans votre question sur la notion de l'article 5. Ça voudrait dire que les Russes voudraient étendre le conflit. En revanche, le scénario plus probable dans un premier temps, permettez-moi de rester dans le probable, serait qu'ils lancent une agression sur l'Ukraine avec des répercussions, des débordements vers les pays occidentaux. Ce sont des choses qu'on a déjà observées par le passé. Hein. Il y avait une agression de Notpetya qui était d'abord dirigée contre l'Ukraine et qui a finalement bien handicaper les Occidentaux. Qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, ça peut bloquer un certain nombre de grands services publics. Alors, dans le milieu, on parle d'opérateurs d'importance vitale, mais parlons de grands services publics, que ça soit des banques ou des hôpitaux ou des systèmes des systèmes de distribution d'électricité. Mais voilà, alors, vous avez une tempête, ça coupe l'électricité et ça peut durer 2-3 jours. On peut imaginer des choses comme ça.
Oui, absolument. Merci infiniment. Merci Olivier Kemps. Je rappelle que vous êtes directeur du cabinet stratégique La Vigie et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique.
Le 18-20, Christelle Rebière sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde, terré parfois, atterré souvent en Ukraine. Pour ceux qui restent ou pour ceux qui fuient, nous entendrons les récits que nous ont envoyés deux familles. La troupe habituelle nous emmène jusqu'à 19h, sous les radars, Fabien Fourel.
Le Liberia tente de sauver les pangolins, les écailles du mammifère s'arrachent sur les marchés asiatiques, il est en voie d'extinction.
Le monde d'après, Jean-Marc Four.
Bonsoir à tous. Poutine dit vouloir dénazifier l'Ukraine, mais bombarde à côté d'un mémorial juif à Kiev. On va mettre ces deux faits en miroir l'un de l'autre.
A tout de suite, on reste en Ukraine avec une programmation spéciale ce soir, dénichée par notre programmateur musical Djouk Baka. C'est aussi une forme de solidarité. Pianitsa, c'est l'un des groupes les plus connus en Ukraine. Cette chanson Soldat parle d'un jeune gars qui part à la guerre et elle les accompagne aujourd'hui.
Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah. Я солдат.
Я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки.
Я сам не видел,
но мне так сказали.
Я солдат,
и у меня нет башки.
Мне отбили ее сапогами.
Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата. Потому что граната белая вата, красная вата не лечит солдата.
Я солдат,
недоношенный ребенок войны.
Я солдат,
мама залечимая рана.
Я солдат,
солдат забытой богом страны.
Я герой,
скажите мне, какого романа?
Я солдат.
Мне обидно, когда остается один патрон. Только я или он. Последний вагон, самогон, нас таких миллион.
Во-о-о-о, я солдат.
И я знаю свое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война. Теперь ты довольна.
Я солдат,
недоношенный ребенок войны.
Я солдат,
мама залечимая рана.
Я солдат,
солдат забытой богом страны.
Я герой,
скажите мне, какого романа?
Я солдат,
не дано.
брошенный ребенок войны.
Я солдат.
Мама залечимая раны.
Я солдат.
Солдат, забытый богом страны.
Я герой.
Скажите мне, какого романа?
Le bruit du monde, c'est toujours celui de la guerre ce soir. Bonsoir Caroline Gillet.
Bonsoir Christelle.
Vous nous emmenez en Ukraine, évidemment. Écoutez ceux dont la vie a basculé depuis jeudi dernier. Vous leur avez proposé de s'enregistrer avec leur téléphone portable et d'envoyer le récit de leur quotidien. Nous partons pour Kiev, plus menacée que jamais.
Oui, ça fait plusieurs jours que je reçois les sons d'une jeune femme là-bas via WhatsApp qui préfère rester anonyme. Au début des bombardements, elle était descendue dans les sous-sols, mais depuis deux jours, elle refuse de le faire.
Aujourd'hui, c'est ma journée de rage. Je suis pleine de rage et je ne sais pas quoi en faire. Mais je sais que je ne vais pas aller dehors et prendre un flingue. Ça, non. Là, je suis en train de faire le ménage. J'ai besoin d'être dans un lieu propre. Tellement de colère. J'ai tellement de colère. Je ne veux pas descendre au parking. Je ne veux pas me cacher comme un animal. Je suis chez moi. Ça n'est pas juste.
I am home, and this is not fair.
On a construit une barricade avec un matelas. Il tient avec cette planche en bois là. Je t'emmène dans l'autre pièce. Ça, c'est mon ami. On reste au lit toute la journée. Donc là, cette fenêtre est bloquée par une armoire et celle-là aussi. Et là, c'est la salle de bain, c'est notre petit endroit sûr. On se cache ici quand il y a vraiment un gros risque. Cette autre pièce n'a pas tant de protection que ça. Tu entends les explosions ? Moi, je n'irai nulle part. Je n'irai pas dans le bunker. C'est là que Poutine voudrait que je sois. Dans une pièce sombre. Comment oses-tu, mec ? Comment oses-tu ? Donc là, on fume un peu de marijuana et on va faire du poisson pour ce soir.
Be good.
Hey, Carol.
Salut, Caro. On a survécu à la nuit. Je suis toujours chez moi, barricadée. Poutine continue ses bombardements. Il est vraiment en train de détruire Kharkiv.
He is destroying Kharkiv. Fuck man,
putain, mais on va tout devoir reconstruire. Les gens sont vraiment très en colère depuis hier. Il a bombardé Babi Yar. Je t'avais dit ça? Les gens sont vraiment furieux. Mais on n'a pas peur.
Fearless.
On n'a pas peur.
Et puis vous nous proposez aussi ce soir de retrouver Olga Apinko, qu'on écoutait déjà lundi.
Oui, elle avait quitté Kiev avec son fils, son frère, son neveu, un chat et un écureuil, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils avaient conduit plus de 20 heures pour rejoindre sa famille dans l'ouest du pays. Puis à midi, le troisième jour, elle avait enregistré le son de ses retrouvailles avec sa mère. Eh bien, 3 ou 4 heures plus tard, voilà ce qu'elle m'envoyait.
On cherchait comment être utile ici à Ivano-Frankivsk. Nous avons trouvé ce petit atelier de couture qui fait des réparations des uniformes un peu usés parce qu'apparemment il n'y a pas assez d'uniformes. En fait, cette machine à coudre qu'elle utilise, ma maman, elle a survécu deux guerres mondiales parce qu'elle appartenait à ma arrière-grand-mère. Elle était née en 1883. Du coup, c'est la troisième guerre qu'elle voit dans sa vie.
Même si ici c'est assez tranquille, de toute façon, il y a peut-être une fois par jour, il y a une sirène. Voilà, c'est maintenant le moment. Et on est tous loin des fenêtres, dans les couloirs. D'accord. Comme tu l'as entendu, on a une sirène tout à l'heure. Et mon fils de 1 an et 10 mois, c'est déjà dire, c'est moi, sirène. Je t'ai enregistré le moment quand on a écouté tous ensemble le discours de notre président Volodymyr Zelensky en Parlement européen, un moment très touchant, très important. On l'écoute chaque jour avec énorme
admiration. On a l'impression qu'il dort jamais, qu'il discute avec tous les leaders du monde. Et tu sais, la plupart parmi nous, on n'a pas voté pour lui. Dans ma famille, il n'y a qu'une personne qui a voté pour lui. Je n'ai jamais cru qu'il pouvait être un président de telle qualité qu'il est. Mais maintenant, je peux tout donner quoi, pour rester avec un tel président.
Bel hommage. Merci aussi à ces femmes d'avoir partagé avec nous ces moments de vie. Et vous, Caroline Gillet, on vous retrouve demain soir, bien sûr, même lieu, même heure, avec d'autres notes vocales.
Merci,
à demain.
À demain.
Sous les radars nous emmène ce soir au Mexique, en proie à la violence de règlements de compte entre gangs.
Un massacre particulièrement fait la une des télévisions locales dimanche. 17 personnes ont été assassinées lors d'une veillée funèbre dans une petite ville du centre du pays. L'un des pires faits divers qui est connu, le Mexique. Nous sommes dans la ville de San José de Gracia, dans l'état de Michoacán. Les victimes ont été placées contre un mur avant d'être fusillées à l'arme lourde, comme le montre cette vidéo diffusée sur la télévision publique.
Qué pasó en Michoacán?
Que se passe-t-il dans le Michoacán, dit la présentatrice, avant de diffuser l'extrait. On entend de la musique diffusée dans la rue. Les hommes armés mettent en joue leurs victimes. Et puis... 17 tués, comble de l'horreur, aucun corps n'a été retrouvé. Quand la police locale est arrivée sur les lieux, toute la scène de crime avait été méticuleusement nettoyée. Ne restaient sur place, selon le quotidien mexicain et l'Universal, que des cartouches d'armes à feu ainsi qu'un sac rempli de bouteilles vides de produits de nettoyage. Le maire indique qu'une soixantaine de membres du gang seraient impliqués, mais ils se sont dépassés. Le pays a connu plus de 33 000 assassinats l'an dernier.
Direction maintenant la Libye, Fabien, un pays qui se retrouve dans une situation assez ubuesque. Depuis quelques heures, il compte à sa tête deux premiers ministres rivaux.
Eh oui, le Parlement libyen a approuvé un nouvel exécutif dirigé par l'ex-ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, défiant ainsi le cabinet en place. Le nouveau gouvernement doit prêter serment jeudi, jusque-là rien d'anormal, sauf que le gouvernement en place à Tripoli, dirigé par l'homme d'affaires Abdelhamid Dbeiba, ne reconnaît pas le scrutin. Il parle de fraude évidente dans le décompte des voix, de futilité, avant d'avertir qu'il considérera toute tentative d'intrusion dans ses bâtiments comme une agression contre le siège du gouvernement et qu'il ripostera contre de tels actes conformément à la loi. Vous l'avez compris, la situation est à nouveau explosive en Libye, toujours en crise politique depuis la mort de Kadhafi. Le nouveau Premier ministre a donc essayé de calmer le jeu. Je ne suis pas venu pour me venger ou pour régler des comptes, dit le nouveau Premier ministre élu, mais je suis venu pour construire cette patrie dont tout le monde a besoin. Nous tendons la main à tout le monde, que ce soit dans l'opposition ou dans l'autre camp qui s'est opposé à nous et qui ne voulait pas de nous. Abdelhamid Dbeiba, qui avait été désigné il y a un an dans le cadre d'un processus de paix parrainé par l'ONU pour mener la transition en organisant des élections présidentielles et législatives. Mais les querelles politiques sont trop fortes et donc le spectre de la guerre civile plane à nouveau sur le pays.
Et puis Fabien, quelque chose de beaucoup plus léger quand même, oui. Ça va nous faire du bien. Le Libéria tente de sauver le pangolin.
Et oui, le pangolin, c'est cet animal, souvenez-vous Christelle, accusé d'avoir été le point de départ de la pandémie de Covid-19, ce qui n'a jamais été prouvé, bien au contraire. Une petite boule d'écaille consommée depuis toujours pour sa viande tendre, apparemment au goût sucré. Le petit mammifère est aussi l'objet d'un juteux trafic en Asie. Les écailles sont utilisées en médecine traditionnelle, même si leur efficacité n'est pas avérée. Elles s'arrachent donc, et en moyenne le kilo d'écailles est revendu quelques centaines d'euros. Une sacrée et somme pour les Libériens pays en proie aux crises et dont le simple fait de se nourrir est parfois un challenge. C'est la pauvreté qui nous pousse à le chasser, dit cet homme. Quand le gouvernement nous dit d'arrêter de tuer les pangolins, il devrait nous aider à trouver un autre emploi pour subvenir aux besoins de notre famille. Il y a derrière ce juteux marché une urgence. L'animal est en voie d'extinction, protégé depuis 2016. Alors des brigades forestières ont été mises sur pied au Libéria et doivent arpenter les nombreuses forêts dans l'espoir de décourager les braconniers. Nom de code, il faut sauver les pangolins.
Les pangolins, c'est déjà ça. Merci Fabien. À demain. Le nom de ce groupe ukrainien résonne comme une formule magique. Les Daka Braka, ça signifie donner, prendre. Ils revisitent les chants polyphoniques locaux et les modernisent. On écoute Monac.
лестнице пед монахом, который резвится зеленым лугом. Он лугом, 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 ходят девочки кругом. Тех, кто не знашел, вдох до выпошел. Целувал, малувал, просто шею называл. Закричал ура, закричал ура. Ой, ура, 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 сочинилась и беда. Да не мала я, да не мала я.
Ils sont en France depuis le 3 janvier et leur avenir est en pointillé. La vingtaine de danseurs ukrainiens de la troupe du Grand Ballet de Kiev interprètent une dernière fois le Lac des Cygnes, ce soir, à la Teste de Buch, en Gironde. Ils ont suivi avec effroi l'invasion de leur pays par la Russie le 24 février. Leurs proches sont coincés parfois dans des villes bombardées aujourd'hui. Ils mangent peu, dorment peu, mais les danseurs ont quand même décidé de maintenir la tournée. Certains veulent rentrer, d'autres rester en sécurité. Manon Vautier-Chollet, vous les avez rencontrés hier pour leur avant-dernière à Rouillac, près d'Angoulême.
Sur scène, le ballet a commencé, mais dans les coulisses, les portables des danseurs ne sont jamais très loin. Anatoly prend des nouvelles de sa femme. Elle était bloquée avec leurs deux enfants sous les bombardements de Kharkiv, la deuxième ville du pays.
Et moi, j'étais en état vraiment terrible, mais j'essayais quand même de danser comme il faut. Et ça me tourmentait beaucoup. Maintenant, je suis mieux. Elle a réussi à quitter la ville de Kharkov et aujourd'hui, elle est en Pologne.
Anatoly les rejoint dans quelques jours, puis veut aller en France ou en Espagne. Rester en sécurité ou rentrer en Ukraine, le dilemme pour ses danseurs. Natalia, elle, veut rentrer à Kiev.
Moi, je vais à tout prix retourner chez moi. J'ai mon mari, j'ai mon fils, j'ai ma sœur qui a des enfants. Bien sûr, alors là, les gens, ils ont peur. Enfants, adultes. Souvent, ils descendent dans les abris. Et on essaie de faire parvenir l'atmosphère du spectacle aux spectateurs. Mais en même temps, quand même, c'est l'inquiétude. Tout le monde est angoissé. Inquiet, mais ça n'empêche ça, ils dansent comme avant. Et puis quand ils dansent, ils oublient un peu la réalité.
Celui qui traduit, c'est Yuri Kovalev.
C'est là.
Allez-y, pardon.
Bonjour. Allô?
Le téléphone du régisseur de la troupe n'arrête pas de sonner.
Oui,
des acteurs du monde du spectacle qui lui proposent de l'aide jusqu'à l'Opéra Garnier à Paris.
On vous est très reconnaissant pour cette proposition et j'en parlerai aux artistes.
Lui ne veut qu'une seule chose.
Je veux que ce soit la paix. Parce qu'il y a des gens qui meurent et je voudrais la paix. Mais en tout cas, je ne pense pas que Poutine soit capable d'avoir sur le dos 40 millions d'Ukrainiens.
À l'échauffement, entre deux pas chassés, cet autre danseur s'approche du micro.
Poutine, bordel de murder.
Poutine, go fuck you. Hein.
Quelques rires et quelques larmes aussi juste avant de monter sur scène. Certains spectateurs sont habillés en jaune et bleu pour applaudir ces danseurs ukrainiens. Elisabeth est venue avec sa petite fille Maëlle. Elle est danseuse depuis qu'elle a 4 ans.
Bien sûr que c'est fondamental de leur permettre de jouer. Quoi. C'est la première façon d'être solidaire avec eux, bien sûr. Assez fondamental. C'est de leur permettre de vivre de leur art, de leur technique, de pouvoir continuer à gagner leur vie aussi. Parce que qui dit gagner leur vie chez nous, en l'occurrence, en France, en Occident, c'est leur permettre aussi de ramener un peu d'argent là-bas, quoi. Et de permettre à leur famille de certainement s'en sortir un peu mieux.
Sacha a même pris son drapeau avec lui. Il est né en Ukraine et veut combattre pour défendre son pays d'origine.
J'ai envie de tourner là-bas, battre. Attaquer mon pays comme ça, c'est pas possible. Moi, je n'ai pas dormi la première nuit, je vais appeler partout ma nièce qui habite là-bas, ma copa danseur. Moi, je suis choqué. C'est ça. Désolé. Et j'espère que l'Ukraine est quand même restée debout.
La troupe danse une dernière fois en France ce soir et enchaîne ensuite sur 10 dates en Pologne. Un couple de danseurs a de son côté rejoint Kiev en urgence pour y retrouver son bébé de 6 mois.
Reportage de Manon Vautier-Chollet avec Nicolas Mathias et on s'est rendu compte en préparant cette émission que la musique du lac des cygnes de Tchaïkovski que vous entendez était utilisée par le géant gazier russe Gazprom dans ses pubs. Drôle de grand écart. Le monde d'après, Jean-Marc Four, rebonsoir.
Rebonsoir.
Même si de nouveaux pourparlers sont annoncés, les combats continuent effectivement en Ukraine. Et ce soir, vous revenez sur le bombardement hier d'un mémorial juif à Kiev. Un acte qui renvoie un miroir assez troublant aux propos de Poutine sur la dénazification de l'Ukraine. C'est votre monde d'après.
Oui, puisque le dictateur russe se pique de donner des leçons d'histoire, alors faisons un peu d'histoire. Le mémorial de Babi Yar est situé au nord-ouest du centre-ville de Kiev. C'est un parc verdoyant, arboré plein de bouleaux, vous savez, ces arbres très répandus dans la région. Un silence respectueux y règne à l'habitude. Les 29 et 30 septembre 1941, en 48 heures, 33 771 juifs y sont assassinés par les nazis, tués par balles, puis jetés dans une fosse commune. Dans les mois qui suivent, et jusqu'en 1943, 150 000 personnes y sont tuées, beaucoup de juifs et aussi des Roms, des handicapés, des militants pro-soviétiques. Babi Yar, c'est sans doute la plus grande fosse commune d'Europe. Tous les Ukrainiens connaissent cette histoire, et d'ailleurs on l'entendait tout à l'heure dans les témoignages recueillis par Caroline Gillet. Une grande menorah, un gigantesque candélabre juif est installé sur les lieux. D'ailleurs je vous mettrai la photo sur le site de France Inter. Babi Yar jouxte la tour de la télévision à Kiev, et en frappant cette zone hier après-midi, l'état-major russe ne pouvait pas ignorer la portée de ce lieu. Cette frappe, elle s'attaquait donc à la fois au présent, à l'histoire immédiate, la diffusion des informations au jour le jour via la tour, et en même temps au passé, la Shoah. Le grand rabbin d'Ukraine parle d'un crime de guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui-même juif, appelle tous les juifs à ne pas rester silencieux.
Et pourtant, Poutine continue de justifier cette guerre par la volonté de dénazifier l'Ukraine.
Oui, et vous êtes nombreux à nous écrire pour nous demander quel peut bien être son raisonnement, son argumentaire. Alors en fait, il repose sur deux axes. Le premier, c'est l'existence, c'est vrai, en Ukraine, de miliciens néo-nazis, en particulier au sein du bataillon Pravi Sector et du régiment Azov. Ils sont apparus au moment du début de la guerre au Donbass, il y a à peu près 8 ans. Ils arborent volontiers des tatouages et des insignes néo-nazis, comme le Wolfsangel, et ils ont recruté des extrémistes fascistes venus de plusieurs pays européens, de France, de Suède, d'Italie. Ces groupes ont été un temps intégrés à l'armée régulière ukrainienne, mais ils restent très marginaux, et surtout depuis son arrivée au pouvoir, Volodymyr Zelensky s'est efforcé de faire exclure les militants néo-nazis. Le deuxième pilier du discours de Poutine est plus important en fait. C'est une référence quasi mythologique à l'Union soviétique comme rempart contre le régime nazi. En fait, il n'y a pas une famille russe qui n'ait eu dans ses membres un combattant mort au front pendant la Seconde Guerre mondiale, à Stalingrad bien sûr, ou ailleurs. Chaque année à Moscou, le 9 mai, appelé Jour de la Victoire en Russie, est célébré par d'immenses parades militaires. Il y a là une sorte de logiciel qui assimile toute forme forme de nationalisme en Ukraine à la résurgence d'un État fasciste et qui considère l'Occident comme le terreau de l'extrême droite. Quitte à oublier que des miliciens néo-nazis, il y en a aussi côté russe.
Mais donc c'est une vision de l'histoire différente de la nôtre ou c'est une manipulation cynique ?
Alors, les deux, c'est une vision différente dans le sens où, vu de Moscou, le nazisme c'est avant tout un ancien ennemi militaire avec des millions de morts à la clé. Le nazisme vu de Moscou, ce n'est pas la Shoah, c'est plutôt l'ennemi de l'Ouest. Et c'est d'autant plus pratique de le résumer à ça que le régime soviétique de Staline n'était lui-même pas exempt d'antisémitisme et a cherché à dissimuler le génocide juif. Mais en l'occurrence, dans le discours de Poutine sur la dénazification, il y a surtout de la manipulation. L'application du parfait petit manuel de désinformation de l'ancien colonel du KGB. Oui. Objectif, souder la population russe derrière lui autour de cet argument martelé de la lutte anti-nazie. Et là où le mensonge délibéré saute aux yeux, et j'en reviens à mon point de départ, c'est quand Poutine dit vouloir éviter un génocide dans le Donbass et plus largement en Ukraine. Certes, il y a eu à peu près 15 000 morts dans l'est du pays, dans une guerre qui n'a pas dit son nom depuis 8 ans, mais ça n'a rien d'un génocide, rien de l'extermination planifiée, systématique, organisée d'une population qui constitue un génocide. Mmh. Et le président russe le sait très bien. Les mots ont un sens. Le seul génocide avéré dans cette région du monde, c'est la Shoah et ses 6 millions de morts. En frappant hier Babi Yar, même indirectement, Poutine apporte la preuve de sa totale duplicité sur le sujet. Le président du mémorial de Babi Yar, il s'appelle Nathan Sharansky. C'est un ancien prisonnier d'opinion sous l'Union soviétique. Et voici ce qu'il dit aujourd'hui. Poutine cherche à déformer et manipuler l'Holocauste pour justifier une invasion illégale. Il n'y a rien à ajouter.
Le monde d'après avec Jean-Marc Four, c'est tous les jours dans le 18-20. Merci Jean-Marc, à demain. Nous on reste ensemble, la suite c'est le journal de 19h d'Hélène Filly et juste après le téléphone sonne. Merci de passer ce début de soirée avec nous, surtout ne changez rien.